Protectionnisme et mercantilisme aux origines de la grande divergence. Les recherches récentes ont largement confirmé les conclusions de Pomerantz sur les origines de la grande divergence et le rôle central joué par la domination militaire et coloniale et les innovations technologiques et financières qui en ont découlé. Les travaux de Jean-Laurent Rosenthal et Roy Bean Wong ont notamment insisté sur le fait que la fragmentation politique de l'Europe, qui a eu des effets globalement négatifs dans le très long terme, comme l'illustre de façon extrême l'autodestruction de l'Europe des années 1914-1945, ainsi que les difficultés européennes pour s'unir après la Seconde Guerre mondiale, ou plus récemment pour faire face aux conséquences de la crise financière de 2008, avaient effectivement permis aux États européens de prendre le dessus sur la Chine et sur le monde entre 1750 et 1900, grâce notamment aux innovations induites par les rivalités militaires. Les travaux de Sven Beckert ont également montré l'importance cruciale de l'extraction esclavagiste et cotonnière dans la prise de contrôle par les Britanniques et les Européens de la production textile mondiale entre 1750 et 1850. En particulier, Beckert rappelle que la moitié des esclaves africains transportés à travers l'Atlantique entre 1492 et 1888 l'ont été au cours de la période 1780-1860, et notamment entre 1780 et 1820. Cette dernière phase de croissance accélérée de l'esclavage et des plantations cotonnières joua un rôle central dans la montée en puissance des textiles britanniques. Au final, l'idée smithienne, selon laquelle l'avance britannique et européenne se serait appuyée sur de paisibles et vertueuses institutions parlementaires et propriétaristes, n'est plus guère défendue. Des chercheurs ont par ailleurs entrepris de collecter des données détaillées de salaires et de production, permettant de comparer les niveaux européens, chinois et japonais avant et pendant la grande divergence. Malgré la fragilité des sources, les éléments disponibles confirment la thèse d'une divergence tardive entre Europe et Asie qui ne prend vraiment forme qu'à partir du XVIIIe siècle, avec des nuances suivant les auteurs. Les travaux de Prasanan Parthasarathi ont quant à eux permis d'insister sur le rôle clé des politiques protectionnistes anti-indiennes dans l'émergence de l'industrie textile britannique. Au XVIIe et XVIIIe siècle, les exportations de produits manufacturiers, textiles de toutes sortes, soieries, porcelaines, proviennent principalement de Chine et d'Inde, et elles sont largement financées par des importations d'argent et d'or en provenance d'Europe et d'Amérique, ainsi que du Japon. Les textiles indiens, et notamment les tissus imprimés et les calicots bleus, font fureur en Europe et dans le monde entier. Au début du XVIIIe siècle, 80% des textiles échangés par les marchands anglais contre des esclaves en Afrique de l'Ouest étaient fabriqués en Inde, et cette proportion atteint encore 60% à la fin du siècle. Les registres maritimes indiquent que les textiles indiens représentaient à eux seuls un tiers des cargaisons embarquées à Rouen dans les années 1770 dans les navires en partance pour le commerce négrier. Des rapports ottomans indiquent que les exportations textiles indiennes vers le Moyen-Orient étaient alors encore plus importantes que celles acheminées vers l'Afrique de l'Ouest, ce qui ne semblait pas poser de problème majeur aux autorités turques, davantage sensibles aux intérêts du consommateur local. En Europe, les marchands virent très vite l'intérêt qu'ils pouvaient avoir à attiser les tensions contre les textiles indiens afin de s'approprier une partie de ce savoir-faire et de développer leurs projets transcontinentaux. Dès 1685, le Parlement britannique introduisit des droits de douane de 20% puis de 30% en 1690, avant de bannir entièrement l'importation de textiles imprimés et colorés en 1700. À partir de cette date, seuls les tissus vierges étaient importés d'Inde, ce qui permit aux producteurs britanniques de progresser dans la fabrication des pièces de couleur et des impressions. Des mesures similaires furent prises en France avant d'être renforcées tout au long du XVIIIe siècle au Royaume-Uni, avec notamment l'institution d'un droit de douane de 100% sur l'ensemble des textiles indiens en 1787. La pression des marchands d'esclaves de Liverpool, qui avaient un besoin vital de textiles de qualité afin de pouvoir développer leur commerce sur les côtes africaines sans dépenser tout leur métal, joua un rôle décisif, notamment entre 1765 et 1785, période de rapide amélioration de la production anglaise. Ce n'est qu'après avoir acquis un avantage comparatif indiscutable dans l'industrie textile, en particulier grâce à l'utilisation du charbon, que le Royaume-Uni se mit, à partir du milieu du XIXe siècle, à tenir un discours libre-échangiste plus affirmé et non dénué d'ambiguïté comme avec les exportations d'opium en Chine. Les Britanniques firent également usage de mesures protectionnistes dans l'industrie navale, florissante en Inde au XVIIe et XVIIIe siècle, en instituant en 1815 une taxe spéciale de 15% sur tous les biens importés sur des navires de fabrication indienne, puis en décrétant que seuls les bateaux anglais pouvaient importer au Royaume-Uni des marchandises venues de l'est du Cap de Bonne-Espérance. Même s'il est difficile de proposer une estimation globale, il paraît clair que l'ensemble de ces mesures protectionnistes et mercantilistes, imposées au reste du monde la main sur le canon, a joué un rôle significatif dans la domination industrielle britannique et européenne. D'après les estimations disponibles, la part de la Chine et de l'Inde dans la production manufacturière mondiale, qui était encore de 53% en 1800, n'était plus que de 5% en 1900. Là encore, il serait absurde de voir dans cette trajectoire la seule voie possible menant à la révolution industrielle et à la prospérité moderne. On peut par exemple imaginer d'autres trajectoires historiques qui auraient permis aux producteurs européens et asiatiques d'aboutir à une même croissance industrielle d'ensemble, voire à une croissance supérieure, sans le protectionnisme anti-indien et anti-chinois, sans la domination coloniale et militaire, et avec des formes d'échange et d'interaction plus égalitaires et équilibrées entre les différentes régions de la planète. Il s'agirait certes d'un monde très différent de celui dont nous sommes issus, mais le rôle de la recherche historique est précisément d'illustrer l'existence d'alternatives et de bifurcations en fonction notamment des rapports de force politico-idéologiques entre les différents groupes en présence. Le Japon et la modernisation accélérée d'une société ternaire. Nous allons maintenant examiner la façon dont la rencontre avec les puissances coloniales européennes a affecté la transformation des régimes inégalitaires ternaires qui prédominaient dans les différentes parties de l'Asie avant l'arrivée des Européens. Nous avons vu dans le chapitre précédent comment les inégalités en Inde précoloniale étaient notamment structurées par l'idéologie trifonctionnelle avec une forme d'équilibre entre les élites guerrières et militaires, les kshatriyas, et les élites cléricales et intellectuelles, les brahmanes, suivant des configurations instables et évolutives en fonction notamment de l'émergence de nouvelles élites guerrières, de la concurrence entre royaumes hindous et musulmans et des formes mouvantes de solidarité et d'identité des jatis. Surtout, nous avons vu comment l'administration britannique, en rigidifiant les castes dans le cadre des recensements et des politiques coloniales, avait interrompu la transformation des sociétés trifonctionnelles indiennes et avait contribué à l'émergence d'un régime inégalitaire original fondé sur un mélange inédit d'inégalités statutaires anciennes et d'inégalités propriétaristes et éducatives modernes. Le cas du Japon présente de multiples différences avec celui de l'Inde, mais également plusieurs similitudes. Le Japon de l'ère Edo, 1600-1868, était une société fortement hiérarchisée, avec de multiples disparités sociales et rigidités statutaires de type trifonctionnel, suivant des logiques comparables par certains aspects à celles observées dans l'Europe d'Ancien Régime ou en Inde précoloniale. La société était dominée d'une part par une noblesse guerrière, avec à son sommet les daimyos, grands seigneurs féodaux, sous l'autorité du shogun, chef militaire, et d'autre part par une classe de prêtres shinto et de moines bouddhistes, les deux formes de religion étant plus ou moins en symbiose ou en concurrence suivant les périodes. La particularité du régime japonais sous l'ère Edo est que la classe guerrière avait pris un fort ascendant sur les autres. Les shoguns héréditaires de la dynastie Tokugawa, après avoir rétabli l'ordre en 1600-1604 à la suite des multiples guerres féodales des décennies précédentes, avaient peu à peu cessé d'être de simples chefs militaires et étaient devenus les véritables dirigeants politiques du pays à la tête de l'ensemble du système administratif et juridique depuis leur capitale d'Edo, Tokyo, alors que l'empereur, basé à Kyoto, était réduit à des fonctions symboliques de chef spirituel. La légitimité du shogun et de la classe guerrière fut cependant durement éprouvée par l'arrivée dans la baie de Tokyo en 1853 des navires de guerre armés de canons du commodore états-unien Matthew Perry. Quand il revint en 1854, avec une armada deux fois plus importante, renforcée par les bateaux de plusieurs alliés européens, britanniques, français, néerlandais, russes, le shogunat n'eut d'autre choix que d'accorder les privilèges commerciaux, fiscaux et juridictionnels exigés par les puissances coalisées. Cette humiliation sans détour fit entrer le Japon dans une phase d'intense remise en cause politico-idéologique qui aboutit au début de l'ère Meiji en 1868. Le dernier shogun Tokugawa fut déposé et l'autorité de l'empereur rétablie sous l'impulsion d'une partie de la noblesse et des élites japonaises désireuses de moderniser le pays et de concurrencer les puissances occidentales. Le Japon offre ainsi l'exemple inédit d'une modernisation sociopolitique accélérée qui débuta par une restauration impériale, en grande partie symbolique, il est vrai. Les réformes qui furent mises en place à partir de 1868 reposaient sur plusieurs piliers. En particulier, les anciennes distinctions statutaires furent supprimées. La noblesse guerrière perdit ses privilèges légaux et fiscaux. Cela valait non seulement pour la haute aristocratie des daimyos, mince couche comparable aux lords britanniques, mais également pour l'ensemble des guerriers dotés de fiefs, revenus perçus sur la production des villages, qui furent partiellement dédommagés sur le plan financier. La Constitution de 1889, inspiré notamment des régimes britanniques et prussiens, s'appuyait sur une chambre des pairs, permettant à une partie triée sur le volet de l'ancienne noblesse de conserver un rôle politique. Et surtout, une chambre des représentants, initialement élue sur une base censitaire par à peine 5% des hommes adultes, avant que le suffrage masculin soit étendu en 1910 et 1919 et devienne universel en 1925. Il fut ensuite étendu aux femmes en 1947, en même temps que la Chambre des pairs était définitivement supprimée. D'après les recensements de la population par classe réalisés sous les Tokugawa à partir de 1720, la classe des daimyos et des guerriers dotés de fiefs représentait entre 5 et 6% de la population totale, avec de fortes variations suivant les régions et les principautés, de 2, 3% à 10, 12%. L'importance numérique de ce groupe semble avoir diminué au cours de l'ère Edo, puisque la classe des guerriers représentait entre 3 et 4% de la population lors du recensement réalisé en 1868 au début de l'ère Meiji, à la veille de la suppression des fiefs et des guerriers en tant que classe statutaire, à l'exception des pairs. Les prêtres Shinto et les moines bouddhistes représentaient quant à eux entre 1 et 1,5% de la population. Si l'on compare avec les réalités européennes des XVIe, XVIIIe siècles, on constate que la classe guerrière était numériquement plus importante au Japon qu'en France ou au Royaume-Uni, alors que la classe religieuse était un peu moins nombreuse. Voir graphique 9.3. Comme nous l'avons vu, d'autres pays européens ainsi que plusieurs sous-régions indiennes avaient des classes guerrières et nobles d'une taille voisine ou supérieure à celle observée au Japon. Au final, ces ordres de grandeur ne sont pas très différents et attestent d'une certaine similarité des sociétés trifonctionnelles, tout du moins du point de vue de la structure formelle d'ensemble. Outre l'abolition des privilèges fiscaux et des corvées, les réformes du début de l'ère Meiji supprimèrent les multiples inégalités de statut entre différentes catégories de travailleurs des villes et des campagnes qui caractérisaient le régime précédent. En particulier, le nouveau pouvoir mit officiellement fin aux discriminations dont faisaient l'objet les burakumins, gens des hameaux, qui formaient la catégorie la plus basse de travailleurs sous les Tokugawa et dont le statut de paria était par certains aspects proche de celui des intouchables et des aborigènes en Inde. On considère généralement que les burakumins regroupaient moins de 5% de la population à l'époque Edo, mais ils étaient généralement exclus des recensements et cette catégorie cessa officiellement d'exister sous l'ère Meiji. Par ailleurs, le régime Meiji mit en place une série de politiques visant à favoriser l'industrialisation accélérée du pays et le rattrapage sur les puissances occidentales. La centralisation fiscale et administrative du pays fut rapidement renforcée. Les préfets et les régions remplacèrent les daimyos et les fiefs, et des impôts importants furent instaurés pour financer des investissements au service du développement économique et social du pays, en particulier en termes d'infrastructures de transport, routes, chemins de fer, secteur naval, et dans le domaine éducatif et sanitaire. Selon certaines estimations, les recettes fiscales de l'État japonais étaient déjà relativement élevées, près de 10% du revenu national, donc plus proche des États européens que des États chinois ou ottomans, au milieu du XIXe siècle, donc avant le début de l'ère Meiji, avant de s'accroître par la suite au-delà de 10% du revenu national. L'effort réalisé en termes d'éducation fut particulièrement spectaculaire, aussi bien quant à la formation d'une nouvelle élite capable de rivaliser avec les ingénieurs et savants occidentaux, que concernant l'alphabétisation et la formation de la masse du pays. Du côté des élites, la motivation est parfaitement claire, il s'agit d'éviter la domination occidentale. Les étudiants japonais partis de Kagoshima en 1872 pour étudier dans des universités occidentales racontent leur histoire sans détour. En escale sur les côtes de l'Inde, sur le bateau les menant en Europe, ils virent de jeunes enfants indiens réduits à plonger dans l'océan pour y ramasser des piécettes et distraire ainsi les colons britanniques qui les regardaient. Ils en conclurent qu'il fallait étudier d'arrache-pied pour éviter que le Japon connaisse le même sort. L'alphabétisation de masse et la formation technique étaient aussi considérées comme des conditions indispensables pour une industrialisation réussie.